La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Quand l'assassinat d'un chanteur populaire menace une fragile démocratie, vous nous emmenez ce matin en Éthiopie.
Addis Abeba et son journal en langue anglaise The Addis Standard qui nous plonge en plein dans l'événement. En deux jours, en Éthiopie, 81 personnes sont mortes à travers tout le pays dans la sanglante répression de manifestations qui font donc suite à la mort du jeune chanteur Achalu Hundessa, 34 ans, tué par balle lundi à Addis Abeba dans des circonstances qui reste encore très flou. Alors ça ne transparaît pas forcément à l'écoute, mais cette musique d'Achalu Hundessa, elle était, comme son auteur, très engagée dans la vie politique de son pays, l'Éthiopie, pour la cause des libertés, de la démocratie et de son peuple, les Oromo. C'est d'ailleurs, précise la BBC Afrique, pour ces trois raisons que la pop star avait soutenu avec ferveur, il y a deux ans, l'ascension vers le pouvoir du premier ministre actuel, Abiy Ahmed, premier dirigeant issu de l'ethnie Oromo, pourtant majoritaire en Éthiopie, mais qui a toujours été marginalisé politiquement et espérait son heure enfin arrivée en 2018. Oui, mais voilà, dès mardi matin, les manifestations spontanées et furieuses de jeunes Éthiopiens ont pris une coloration très ethnique avec des slogans et des chants repris dans le répertoire d'Achalu Hundessa à la gloire de la nation Oromo. Dans plusieurs villes, d'après les récits qu'a pu rassembler Al Jazeera, les défilés de jeunes Oromo ont viré à l'affrontement avec des groupes issus d'autres ethnies, puis avec la police. L'armée éthiopienne a même été déployée dans la capitale.
Oui, car la révolte, Camille, qui s'est levée avec la mort du chanteur, est également très politique.
Oui, elle demande des comptes, cette communauté Oromo, à Abiy Ahmed sur ses promesses non tenues justement au détriment de son peuple. Plusieurs leaders de mouvements d'opposition ont d'ailleurs été arrêtés par la police sans motif clair en marge des défilés. Il faut dire, avec la revue en ligne Quartz Africa, que depuis la mi-juin, Abiy Ahmed est sous le feu de critiques de ses opposants pour avoir repoussé à l'an prochain les élections générales, arguant du danger sanitaire de la Covid-19 dans un pays qui pourtant n'affiche à ce jour pas plus de 5000 cas détectés et 103 morts. Abiy Ahmed, qui a été présenté comme un miracle démocratique d'Afrique de l'Est il y a deux ans, déçoit donc jusque dans les rangs de son ethnie, les Oromo. Il se défend en appelant à l'union de tous au sein de la communauté nationale. Il accuse à demi-mot l'Égypte et le Soudan d'avoir commandité le meurtre du chanteur pour déstabiliser l'Éthiopie, l'affaiblir dans le conflit qui oppose les trois pays autour du futur grand barrage éthiopien sur le Nil. Mais ses réponses ne portent pas. La colère du peuple Oromo est profonde, historique. Elle ressurgit depuis lundi sous des formes et dans des endroits également, parfois étonnant. Dans la banlieue sud de Londres, par exemple, on apprend dans l'Express and Star qu'une foule d'immigrés éthiopiens a saccagé une statue d'Haïlé Sélassié dans le parc de Wimbledon il y a deux jours. Haïlé Sélassié, dernier empereur d'Éthiopie jusqu'en 1974, qui n'a pas été seulement le messie des Rastafariens, mais aussi un dictateur qui a réprimé sévèrement les révoltes Oromo de l'époque. Les blessures de l'histoire, on le voit, sont encore vives, tout comme l'est le sentiment d'injustice et de déclassement des Oromo d'aujourd'hui. C'est tout cela que chantait Achalu Hundessa et c'est tout cela que crient les siens depuis maintenant trois jours, avec le risque que cette flambée violente de nationalisme Oromo ne fasse dérailler le processus démocratique et civique engagé depuis deux ans par Abiy Ahmed en Éthiopie. Je vous conseille très vivement à ce sujet l'analyse de l'universitaire somalien Abdi I. Samatar pour le média sud-africain Business Day. Le lien sera bien sûr dans quelques minutes sur franceculture.fr.
Retour à présent sur le référendum constitutionnel qui a pris fin hier en Russie.
Alors je ne reviens pas tant sur le résultat, plus de 70% de oui à la grande réforme poutinienne de l'organisation politique et sociale de la Russie. Ça c'est tout sauf une surprise. Vladimir Poutine peut se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036. C'est ce qu'on peut lire à la une de tous les journaux à peu près de Moscou ce matin. Mais attardons-nous, si vous le voulez bien, sur le processus électoral qui a permis ce plébiscite. On le fait avec ce commentaire très acerbe du journaliste polémiste Fedor Krashenikov, publié sur le média en ligne dissident République. Le référendum constitutionnel, je vous l'explique, il y a une semaine, a duré 7 jours, selon un procédé qui n'avait encore jamais été expérimenté et qui a consisté à aller chercher les électeurs là où ils étaient pour les faire voter au maximum et éviter une abstention qui s'annonçait très forte. Le vote électronique a été utilisé sous à peu près toutes ses formes possibles. On a monté des bureaux de vote mobiles dans les rues, dans les supermarchés, dans les maisons de retraite, etc. On a complètement distendu l'idée même du vote. On l'a déformé dans le temps et l'espace, décrit Krashenikov, à tel point que le principe qui en est la base, un vote vote, un lieu de vote, un cadre fixe contraint pour éviter les détournements, eh bien tout cela a perdu tout son sens. À partir de là, il suffit de consulter les infos du site Medusa pour savoir que des fraudes ont bel et bien existé à travers tout le pays. Pour arriver au résultat escompté, plus de 60% de participation et plus de 70% de oui donc à l'avenir radieux bâti par Vladimir Poutine. En prétextant moderniser et ouvrir l'élection, le président russe l'a tué. Il acte ainsi la fin de la démocratie russe par sa dilution dans elle-même. Pour Fedor Krashenikov dans République, donc, il serait naïf de croire que le plébiscite n'était qu'une exception, que les prochaines élections en Russie ne vont pas s'inspirer du même procédé. Une manière en creux pour l'élite russe de reconnaître que le poutinisme n'a plus le soutien de la population et qu'il faut trouver d'autres moyens pour légitimer sa survie.